L'éducation et le chiffre 4, un hasard ? Article paru le 2 septembre 2009. Bon, ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé du 3, de la Trinité, de son importance dans notre compréhension de l'univers. Et si on passait au 4, histoire de continuer l'arithmétique divine ? C'est vrai qu'il reste encore pas mal de chemin pour aller jusqu'à 12. Mais on n'est pas pressé, on a jusqu'à Noël. Pourquoi Noël ? Je n'en sais rien, mais je pense que d'ici là, on aura vécu de grandes choses. 4 petits mois qui risquent fort de laisser des traces dans notre monde de la 3D. En France, nous sommes habitués aux rentrées sociales, où les syndicats ont besoin de se remettre en jambe pour se savoir encore vivant après les vacances d'été. Je suis sûr qu'ils vont demander le plein emploi, des augmentations et surtout plein de nouveaux fonctionnaires, notamment dans l'éducation nationale, car il faut bien que le mammouth continue de survivre. Je parle de cela histoire de me chauffer un peu, car quand on regarde les résultats en fonction des moyens déployés, on peut s'en prendre de risques énormes et énoncer que le rendement est déplorable. En effet, l'éducation d'un individu suit une mécanique céleste dont l'éducation nationale devrait s'inspirer. Seulement voilà, avec les salaires qu'ils ont, il est clair que ce ne sont pas des flèches qui ont été recrutées. Pourtant, il y a tant de gens bien et de bonne volonté, mais malheureusement, ils sont broyés par un système qui relève de Jules Ferry, sans compter toutes les énormités éducationnelles qui sont venues alourdir le bateau depuis 140 ans. Je vais donc en profiter pour vous faire découvrir quel est le carnet de route, ou plus précisément, la méthode utilisée par le Sandon pour faire que des bouts de choux angéliques deviennent des archanges. Rien que ça. En effet, après avoir créé la dualité, et avant de s'essayer à la Trinité, le Sandon a vite compris qu'il y allait y avoir un problème d'évolution. Alors pour agrandir le cercle des possibilités, il fabriqua le 4. Il partit donc de ce qu'il connaissait, le 2, c'est-à-dire le 0 et le 1, ou le blanc et le noir, ou le masculin et le féminin, et décida de diviser le 2 par 2. Le résultat ne se fit pas attendre car il était en territoire connu. Ainsi naquit le 00, 01, 11 et le 10. Dit autrement, le féminin féminin, le féminin masculin, le masculin masculin et le masculin féminin. Bref, un petit dessin va vous faire comprendre tout de suite la chose. Dessin numéro 1. Le Sandon partit donc d'un petit tableau identique au premier et où il mit les deux polarités en ligne et en colonne afin de fabriquer les quatre coupes dont il avait besoin. Galanterie oblige, il commença par le féminin à gauche pour la première ligne et en haut pour la première colonne. Cela décréta ainsi le cercle de la création commencerait par le féminin féminin. Le second tableau représente la même chose mais avec des chiffres car rappelez-vous, la création est d'abord mathématique. Le féminin est le cercle, tandis que le masculin est le segment de droite. Tout rapport avec nos organes reproducteurs est totalement fondé. C'est donc très facile de se rappeler, tout comme celui des symboles rouge et bleu. Le rouge, Vénus, l'amour, est un cercle sous lequel la croix représente la vie, croisement des principes masculins et féminins, soit le vertical et l'horizontal. Le symbole bleu, Mars, l'action, est un cercle avec une flèche montante et qui décrit bien les attributs masculins. Maintenant, si vous venez à superposer les deux symboles, vous obtiendrez un 8 debout, où le cercle supérieur se fait pénétrer par la flèche, tandis que le cercle inférieur se voit avec une croix à l'intérieur. La vie est donc dans le cercle inférieur, femme enceinte, et qui est le symbole astrologique d'Urantia Gaïa, soit le cercle avec la croix à l'intérieur. Et puis, ceux qui n'y connaissent rien en astronomie et astrologie, la Terre se situe entre Vénus et Mars. Bref, aucun hasard là-dedans. Le second tableau représente aussi les couleurs de la dualité, le blanc au féminin et le noir au masculin. La rangée supérieure correspond à la femme, tandis que la rangée inférieure est celle de l'homme. Ce dernier est la fondation qui soutient le féminin. Il est donc extériorisé dans la matière, le dense, le visible, c'est le costaud, la brute qui protège. Tandis que madame est à l'étage, le subtil, l'invisible, qui lui dit comment construire la baraque afin d'assurer un foyer confortable à elle-même et à la descendance. Voyez, avec un simple schéma, comment on peut vraiment expliquer beaucoup de choses. C'est qui a dit que la création était compliquée? Bref. Pour des raisons de facilité de langage, je vous ai mis le troisième tableau qui exprime les doubles polarités simplement. Alors au lieu de dire féminin-féminin ou blanc-blanc ou 0-0, on préférera dire le yin féminin. C'est franchement plus classe, surtout dans les canalisations où les anges ne peuvent pas se permettre des mondanités bien de chez nous. Donc, fort de cette double dualité, le Sandon a pu continuer son œuvre avec majesté, car maintenant il avait enfin un processus clair d'expérimentation. En effet, vous avez maintenant sous les yeux le véritable processus d'apprentissage de toute entité créée dans l'univers. En comprenant ce processus, c'est une véritable grille de lecture qui s'offre à vous. Vous pourrez la décliner dans tous les sens, et vos yeux s'écarquilleront tant que vous étiez aveugle auparavant. Dans l'article « Verre et dans la pomme », car nous le portons en nous, j'ai déjà abordé le sujet des cycles qui partent d'un point zéro, la naissance, au bouclage du cercle qui est la mort. Cette dernière n'étant en fait que la renaissance à un nouveau cycle évolutif. Bref, tout tourne en rond, sauf qu'à chaque fois, on grimpe ou on descend d'un niveau. C'est la spirale. L'évolution et l'involution sont donc des processus normaux basés sur les quatre phases essentielles d'expérimentation. Voyons donc cela en détail. Dessin numéro 2. Nous pouvons donc constater que c'est très simple comme processus. Si vous l'intégrez correctement, vous allez pouvoir comprendre tout plein de choses. Quand l'éducation nationale aura compris tout ça et qu'elle l'intégrera dans sa réalité pédagogique sans faire appel à des tordus des neurones, le camp des cancres sera fortement décimé. Donc c'est la phase 1, j'apprends. C'est la première marche qui vous mènera obligatoirement sur un chemin d'apprentissage. Vous êtes un nouveau-né à quelque chose et la curiosité nécessitée va vous pousser à aller à la recherche des informations. Qui dit information dit savoir, et qui dit savoir dit manipulation. On comprend donc que la très haute mainmise par toutes les institutions pour faire en sorte que vous n'ayez accès qu'à l'information qui les arrange. Même dans les campagnes reculées, n'importe qui est avide d'apprendre des choses d'ailleurs. C'est ainsi que naissent les rumeurs. Et les médias sont très forts à ce niveau-là. C'est carrément de l'intox, et on ose dire que c'est du journalisme, au nom de la liberté, au nom du droit à savoir. Bref, dit autrement, si tu veux compter tes bifetons et pas te faire arnaquer dans le rendu de la monnaie, tu vas te fader l'étape d'addition et de multiplication. Tu n'as pas vraiment le choix. Cette étape toute naturelle est fortement d'essence féminine, puisqu'il faut vraiment être ouvert à tout, l'environnement et même aux infos douteuses. Bref. Vous voyez la dame du village qui épie tout de derrière son rideau de cuisine. Elle apprend. Elle prend à soi. Ensuite, nous passons à la phase 2. Je comprends. Là, après avoir accédé à l'info, il va falloir la traiter pour savoir si c'est du lard ou du cochon. La partie masculine se met alors en œuvre en charcutant et évacuant ce qui doit l'être. C'est la phase organisationnelle de l'info. En clair, autant la première phase, on disait « je sais », là, on sera dans le « j'ai compris ». C'est une nuance très importante, disant qu'il y a eu un traitement quelque part. On n'est plus dans la phase du savoir, mais dans celui de la connaissance. En effet, on va faire que cette information ait été vécue par une mise en pratique. On est donc dans le domaine de l'expérience et donc de l'expérimentation matérielle. C'est comme on dit du « feedback ». Prenons un exemple. Vous apprenez à l'école de conduite qu'il ne faut pas griller les feux rouges. Vous le savez bien. Mais pas forcément compris véritablement, car cela restera du virtuel. Par contre, si effectivement vous grillez un feu rouge et que vous emboutissez un panier à salade qui passait justement par là, vous allez comprendre très vite votre douleur. En supposant que vous soyez encore en vie, les paniers à salade, ça ne roule pas vite pour cause de prise au vent très fort. Probablement les odeurs de sainteté de ceux qui sont assis à l'arrière. Vous allez comprendre ce que veut dire de plier de la tôle, d'avoir un retrait ou suspension de permis, d'avoir un malus chez votre assureur, etc. Cette phase 2, celle du « j'ai compris », correspond vraiment à du vécu et non à de l'abstrait, comme dans la phase 1, celle du « je sais ». Passons donc maintenant à la phase 3, « j'améliore ». Une fois que vous avez vécu vraiment l'information et vérifié sa valeur, vous aurez à cœur d'améliorer la situation. D'abord, vous achèterez une voiture plus costaude, avec de bons airbags, un anti-radar intégré et le tout immatriculé dans un pays étranger. Ainsi, la maison Poulaga vous fera banquier sur place, mais vous repartirez quand même avec votre permis de conduire, et ceci sans contusion. Merci, les airbags. Cette phase correspond donc au cran au-dessus de la compréhension, car cette fois-ci, vous y avez mis de l'intelligence dans un but particulier. Vu sous un autre angle, essayons le style. Je sais qu'il faut que je paie des impôts, phase 1. Je comprends que l'on me prélève automatiquement sur mon compte, phase 2, et je vais donc frauder, phase 3. C'est juste un exemple pour vous dire que même sans savoir les quatre principes du processus de l'apprentissage, vous le faites au quotidien, tout naturellement. Passons donc maintenant à la phase 4, j'enseigne. Forcément, puisque maintenant vous avez amélioré les techniques existantes, vous allez être très fier de pouvoir en parler au bar du coin, de bloguer ou carrément d'écrire un livre. On a tous un ego qui nous dit que l'on est toujours plus intelligent que les autres et les systèmes existants. Dit autrement, si vous voulez qu'un élève médiocre devienne un bon, demandez-lui d'enseigner à pire que lui et vous verrez ses notes exploser. Il n'y a pas de cancre véritablement. Il n'y a que des personnes qui ne veulent pas en foutre une et souvent cela est dû à un manque de motivation, largement émané par le prof en question. Démontrez à un cancre qu'il est loin d'être nul en lui demandant d'enseigner à d'autres et vous verrez qu'il sera difficile de trouver des mauvais. Ah, si l'éducation nationale savait cela. Nous savons tous qu'enseigner demande d'avoir un minima compris. C'est le propre de tous les profs, mais malheureusement la grande majorité a sauté l'étape 3, celle de l'amélioration. Alors il est normal que leur pédagogie soit déplorable. Ce n'est que lorsque quelqu'un essaie véritablement d'améliorer les choses qu'il fera preuve d'intelligence véritablement. Grâce à cela, il saura comment s'y prendre pour expliquer simplement les choses. Il sera donc un super pédagogue. C'est simple, n'est-ce pas? Or, le mammouth étant inamovible dans ses méthodes, on peut comprendre que derrière c'est du massacre à la tronçonneuse. En effet, si on laissait faire les profs en fonction des élèves et de la classe, les résultats seraient nettement meilleurs, et cela sans être obligé de recruter de l'aide supplémentaire. Bon bref, je ne suis pas là pour tailler un short à l'éducation nationale, mais j'espère que vous avez bien compris les quatre phases successives de l'apprentissage, parce que ce schéma va souvent revenir dans mes propos, mais sous des angles différents. En effet, le sans-nom a décliné ce nombre 4 sous bien des angles, dont celui des hommes et des femmes, mais aussi des quatre éléments, sans oublier les quatre saisons, les quatre directions, les quatre membres du corps physique, etc. La liste est longue, et sachez que généralement, là où vous voyez la dualité, il y a en fait une double dualité en œuvre. Là où vous voyez les forces de l'ombre, il y a aussi de la lumière, et là où vous voyez de la lumière, une partie d'ombre y habite. Tout n'est pas blanc ou noir, car nous savons qu'il y a aussi des zones grises, comme le fait apparaître le deuxième dessin dans la première planche. Certes, dans les débuts, c'est toujours plus simple de ne voir que deux états, mais rapidement, il faudra se rendre à l'évidence, car quatre états, les choses incompréhensibles, s'expliquent très bien. Bref, pour respecter la logique, mon prochain article vous parlera de la naissance des quatre éléments et de leur polarité respective. Vous découvrirez ainsi les couples divins primordiaux. Il n'y a pas à dire, ça fusionne dur quand on est près de l'île centrale.